Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Mot, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, y a-t-il une extrême droite européenne ? C'est un attelage surprenant que les électeurs autrichiens risquent de confier le pouvoir exécutif d'ici quelques jours. Le 22 mai aura lieu le second tour de l'élection présidentielle. Au premier tour, fin avril, c'est le candidat du FPE, formation d'extrême droite, qui est largement arrivé en tête. 35% des suffrages pour Norbert Höfer, loin devant un candidat soutenu par les écologistes. Alors si Höfer l'emporte dans 10 jours et devient président de l'Autriche, il devra partager le pouvoir avec un Premier ministre social-démocrate. Le précédent chancelier vient de démissionner, mais son successeur sera de la même couleur politique, puisque les sociaux-démocrates, battus à plate couture à la présidentielle, sont toujours majoritaires au Parlement. Attelage surprenant donc et pourtant pas inédit. La gauche autrichienne a déjà gouverné dans le passé avec le FPE, les conservateurs aussi d'ailleurs, ce qui avait valu à l'époque à l'Autriche d'être sanctionné par l'Union européenne. En France, le Front National est particulièrement attentif à cette actualité, d'abord pour son caractère potentiellement exemplaire à un an de la présidentielle, mais aussi parce que la formation autrichienne est son principal partenaire au sein de l'Alliance européenne pour la liberté, le groupe politique que Marine Le Pen est parvenue à former en juin 2015 au Parlement européen. Au-delà des cas français et autrichiens, c'est toute une dynamique nationale populiste qui semble enclenchée depuis quelques années en Europe, du Royaume-Uni à la Grèce, en passant par les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne. Mais s'agit-il d'une poussée unitaire ? Y a-t-il une extrême droite européenne ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Jean-Yves Camus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS. Vous dirigez l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et vous avez publié l'an dernier avec Nicolas Lebourg, Les droites extrêmes en Europe aux éditions du Seuil. Pour discuter avec vous, Dominique Régnier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, conseiller régional Les Républicains en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Vous aviez publié, c'était chez Plon en 2011, il y a une édition depuis, me semble-t-il, Populisme, la pente fatale. Et puis notre troisième invité se trouve au téléphone à Besançon. Il s'agit d'Anaïs Voigilis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorante en géographie à l'Institut français de géopolitique. Vous travaillez notamment sur l'extrême droite en France et en Europe. Et vous êtes membre de l'Observatoire européen des extrêmes, un observatoire qui a été fondé en 2012 par de jeunes universitaires dans l'idée de fédérer justement les recherches à l'échelle européenne. Alors avec vous trois, je voudrais qu'on commence par cette actualité toute récente, à savoir le score du candidat du FPÖ, le Parti de la Liberté à la présidentielle autrichienne. Score important, hein, 35% au premier tour le 24 avril. Jean-Yves Camus, est-ce que c'est d'abord, avant tout, peut-être la preuve d'un enracinement profond de ce parti en Autriche et la preuve que son succès ne tenait pas à la seule personnalité de feu, son ex-leader Jörg Haider ?
Alors la preuve de l'enracinement du FPE en Autriche, on l'a depuis longtemps. Et il y avait eu, effectivement, lorsque Jörg Haider était prématurément et subitement décédé, une crise qui était d'autant plus forte que, après sa mort, on a découvert un certain nombre d'éléments de sa biographie qui ont considérablement étonné ceux-là même qu'il suivait. Mais cette crise, elle n'a été que passagère. Aujourd'hui, le FPE a retrouvé l'ensemble de sa capacité électorale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres raisons, de nouvelles raisons au score de son candidat au premier tour de la présidentielle. Bien évidemment, la crise des réfugiés, on l'a beaucoup dit. Mais pas seulement. Le fait aussi que cette vie politique autrichienne est considérablement sclérosée. Je pense même que le terme de nécrosée conviendrait particulièrement, parce que c'est une vie politique sans relief.
Avec deux partis qui se partagent en alternance le pouvoir depuis l'après-guerre.
Avec deux partis qui alternent ou qui gouvernent ensemble. Et avec cette chose assez inconcevable et assez mal ressentie par les électeurs que le candidat du FPE peut bien être élu président de la République. Eh bien, malgré une défaite électorale cuisante, 12% à Vienne, vieux bastion social-démocrate, eh bien, les socialistes resteront effectivement titulaires de la chancellerie, ce qui est tout de même, par rapport à la question de la volonté populaire, quelque chose qui de plus en plus déplaît aux Autrichiens, qui voudraient bien que leur paysage politique bouge un petit peu.
Alors prenons justement pour hypothèse un résultat le 22 mai, au soir du 22 mai, et le candidat donc populiste Norbert Hofer qui est élu à la présidence de la République autrichienne. Est-ce qu'il faudrait considérer ça, Dominique Reynier, comme une sorte de tournant historique en Europe, ou ça serait simplement un pas de plus dans cette poussée de l'extrême droite dans différents pays européens ?
Alors bon, d'abord ce serait pour moi un pas de plus d'un mouvement qui depuis la fin des années 80 s'amplifie chaque année qui passe, touche presque tous les pays, quelques-uns au début, presque tous aujourd'hui, avec une force de plus en plus grande. Ils sont tous installés, ancrés. Il y a quelques disparitions, mais c'est plutôt l'installation et la montée en puissance. Le dernier invité, c'est l'AFD, Alternative für Deutschland, en Allemagne. Il y aurait une discussion sur la catégorie sous laquelle on va subsumer ces phénomènes-là. Est-ce que c'est de l'extrême droite ? Est-ce que c'est moi je suis plus à l'aise avec la catégorie de populisme parce qu'elle fait droit à un délitement des systèmes nationaux européens, politiques nationaux, qui n'ont pas tous les mêmes défauts ou les mêmes caractéristiques que le système autrichien, mais qui se retrouvent dans des situations très comparables. Avec une espèce d'épuisement assez préoccupante de la forme de la fonction démocratique et de l'alternance même. On a mesuré ça, quantifié ça, les alternances dans tous les pays européens se sont multipliées depuis les années 70, c'est vraiment installé partout, et cette alternance répétée droite-gauche pour aller vite est une des causes de la montée en puissance de partis anti-système ou d'anti-politique qui récupèrent, moi j'appelle ça l'effet essuie-glace, tantôt les déçus de la gauche, tantôt ceux de la droite, mais qui toujours eux-mêmes prospèrent là-dessus. Et qui sont capables de se retrouver à la charnière de thématiques de très à droite, d'extrême droite, comme très à gauche aussi, et qui font avec ça une cuisine qui leur profite de plus en plus.
Mais qu'est-ce qui pourrait faire, par exemple, que le FPÖ autrichien ne répondrait pas exactement à la définition de ce qu'est l'extrême droite ? Est-ce que c'est, par exemple, le fait d'accepter de jouer le jeu des élections et de ne pas être un parti anti-parlementaire qui l'exclut en tout cas, ou qui rend compliqué sa classification.
Ce qui est difficile, si vous voulez, c'est que si on a une catégorisation qui a un caractère, quand on dit extrême droite, moi je ne suis pas gêné avec ces catégories-là, mais dans le Burgenland aujourd'hui, ceux qui gouvernent, c'est les socialistes et le FPÖ ensemble. Là aujourd'hui,
c'est une province autrichienne.
Oui. Pas hier, aujourd'hui. Quand on a, si vous voulez, en Slovaquie, on a eu pendant un bon moment, et on a à nouveau aujourd'hui, mais c'était plus net avec le précédent SNS, parti nationaliste slovaque, d'extrême droite, anti-Rome, etc., raciste, enfin, extrêmement, là, on peut dire d'extrême droite pure, mais gouvernant avec les sociodémocrates de Fico, quand on a ce type, si vous voulez, d'alliage, on se dit, mais ou bien la catégorie ne va plus, ou bien il y a une espèce de propagation généralisée qui fait qu'on ne sait plus très bien quel est l'objet pointé. Il ne s'agit pas d'euphémiser un phénomène, de le caractériser. Le côté, si vous voulez, containment, l'extrême droite, vraiment à côté, contenu, etc., ça c'est terminé, déjà fini depuis un moment en Autriche à cause de la droite qui en 2000 avait gouverné avec eux, aussi en Slovaquie, là en Autriche vraisemblablement à nouveau et avec les sociodémocrates. Voilà, donc c'est ça qui a bougé aussi.
Alors Anaïs Voigelis, on ne vous a pas encore entendu. Je crois que vous allez a priori partager ce que vient de dire Dominique Reynier sur cette complexité justement à qualifier et à cataloguer ces différentes formations, alors nationales, populistes. On va voir un petit peu comment on les appelle au cours de la discussion, puisque vous avez publié un article, un peu de synthèse justement sur ce que représente l'extrême droite en Europe sur le site DiploWeb. Et vous écrivez notamment ceci, sont des formations qui sont plutôt divisées sur le plan stratégique et idéologique, mais leur force, dites-vous, est que de nombreux commentateurs et responsables politiques les considèrent comme un ensemble uni sous la bannière de l'extrême droite, et que finalement le fait de les catégoriser sous cette même bannière, ça donne plutôt une force à des mouvements qui ne sont pas si cohérents que ça entre eux.
En fait, traditionnellement, ce qu'on a tendance à dire, c'est à englober tout le monde sous, en effet, sous la détermination et la d'extrême droite. Or, si on observe l'ensemble de l'offre politique à l'extrême droite de l'échiquier politique en Europe, on se rend compte qu'il y a quand même différentes catégories de partis. Entre, si vous prenez le Front National en France et l'Union démocratique en Suisse, vous vous rendez compte que ce sont des partis qui n'ont pas la même histoire. Et donc, qui ne vont pas travailler ensemble. Et le travail que nous, on a fait à l'Observatoire européen des extrêmes, c'était de dire qu'il y avait la première catégorie qui était les partis qui trouvent leurs racines dans le fascisme et le nazisme, mais qui ont su évoluer, s'adapter et prendre le logiciel des valeurs démocratiques actuelles. Donc dans cette catégorie, on met le Front National, le Vlaams Belang, le FPO, et ce sont des partis qui travaillent ensemble à l'échelle européenne. Dans la deuxième catégorie, on peut mettre des partis qui sont issus plutôt de la droite conservatrice, qui sont xénophobes, eurosceptiques et ethnocentristes. Et là, on mettra plutôt l'UDC ou l'UKIP, ou le Parti du Progrès. Et en la troisième catégorie qu'on mais et qui elle ne travaille finalement qu'avec personne au niveau européen, c'est les partis ouvertement nazis ou fascistes participant quand même aux jeux démocratiques, que sont le Jobbik en Hongrie ou l'Aube Dorée en Grèce. Et on pourrait même ajouter une quatrième catégorie qui sont les partis politiques ou mouvements politiques qui refusent de s'intégrer aux jeux politiques en participant aux élections. Et qui sont eux aussi ouvertement fascistes ou néo-nazis, que sont Casa Pound en Italie ou Ordre Nouveau en France.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette catégorisation, Jean-Yves Camus? Et quand on se demande déjà si, puisque c'est la question qu'on pose ce soir, s'il y a une extrême droite européenne, là, on a déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire que l'extrême droite, finalement, historique, disons, électoralement, elle pèse beaucoup moins que les droites radicales ou les droites extrêmes, puisque c'est comme ça que vous les appelez dans votre livre.
Vous savez, aucune catégorie n'est invariante. Si nous étions aujourd'hui au milieu ou à la fin des années 80, je vous dirais, cette catégorie extrême droite a une pertinence. Elle en a eu une à un moment donné. Oui. Avant que le Vlaams Blok se transforme en Vlaams Belang, change de direction. Quand le MSI était encore un parti qui acceptait le legs du fascisme, quand le Front National était sur la ligne que Jean-Marie Le Pen lui impulsait. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture différente, où d'abord le cadre historique de référence des extrêmes droites traditionnelles a considérablement perdu de sa pertinence.
L'antisémitisme, par exemple ?
Pas seulement le rapport à l'histoire. On glosse beaucoup sur les divergences entre Marine Le Pen et son père. Mais on oublie tout simplement que ces divergences, elles tiennent aussi au phénomène générationnel. Marine Le Pen est tout simplement quelqu'un qui constate qu'aujourd'hui, on ne fait pas de politique, sérieusement, je ne parle pas de la politique de marge, on ne conquiert pas des électeurs en rabâchant sans cesse la question de qui était du bon et qui était du mauvais côté entre 1939 et 1945. Donc ce référentiel-là, il conserve toujours une charge affective dans une petite partie de cet électorat d'extrême droite. Il existe et il existera toujours des groupuscules, y compris en France, qui se réclameront de cette invariance historique du fascisme. Mais aujourd'hui, pour être encore une fois une force électoralement puissante, il faut réussir principalement à mobiliser trois facteurs. Le premier, c'est présenter un logiciel, présenter une offre qui s'adresse à la crise de la représentation politique, c'est-à-dire à ce phénomène massif d'électeurs qui ont de moins en moins confiance dans le fait que le système politique, y compris les élections et la représentation parlementaire, peuvent changer leur vie de tous les jours. Le second problème qu'un parti doit tenter de résoudre pour avoir un succès électoral, c'est la crise de la redistribution. La crise de la redistribution, c'est le fait que nous n'avons plus le même rapport au modèle de l'État qui opère une péréquation entre les plus riches et les plus pauvres. Il y a une confiance de plus en plus faible dans le rôle de l'impôt comme correctif des inégalités et comme nécessité citoyenne. Et puis la troisième catégorie de problèmes auxquels ces partis tentent de répondre, c'est la crise identitaire. C'est peut-être le facteur qui, à l'avenir, jouera le rôle le plus important. Et quand je dis crise identitaire, j'assume le fait que ces partis ont souvent mis les premiers sur le tapis un certain nombre de problèmes que les autres refusait d'aborder ouvertement. Parce qu'il fut une époque où, à cause du poids de l'histoire, s'interroger sur ce qui faisait sens, sur ce qui faisait nation, s'interroger sur la manière dont on devait maîtriser les flux migratoires, c'était automatiquement sembler faire concession à un logiciel qui avait montré dans le passé ce à quoi il pouvait aboutir. Aujourd'hui, ces partis ont devant eux, me semble-t-il, un avenir s'ils réussissent à concilier, comme le fait le FPE, comme le fait le Front National, une réponse à ces trois facteurs-là.
Si ce n'est que ces trois problèmes que vous évoquez, Jean-Yves Camus, l'ensemble des partis traditionnels, aujourd'hui, y sont confrontés et tentent d'y répondre. Si on parle d'une extrême droite européenne, alors, c'est-à-dire que les idées extrémistes en Europe ont réussi justement parce que peut-être elles se diffusent au-delà justement de ces formations. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de thématiques qui aujourd'hui sont imposées dans le débat politique.
Oui, alors peut-être qu'on peut clarifier les raisons pour lesquelles il y a une forme de scepticisme à parler d'extrême droite. Encore une fois, il ne s'agit pas de craindre l'usage d'une formule claquante ou de vouloir euphémiser une réalité. Tous ces... À quelques exceptions près, dont certains ont déjà été cités, comme Obdoré, par exemple, ou le Jobbik hongrois.
Obdoré, c'est la Grèce. Hein.
La Grèce, voilà. Nous avons affaire à des mouvements qui... Alors, on peut mettre en cause leur sincérité, mais ça, c'est autre chose. Hein. Et je le ferai volontiers moi-même, mais c'est autre chose. Nous avons affaire à des mouvements qui... s'approprient les valeurs libérales et démocratiques et prétendent même les défendre plus que les autres face à des menaces nouvelles dont le nazi-islamisme, le fascisme-islamisme, puisque ce sont des catégories qu'ils peuvent utiliser, vous voyez, retournent complètement en fait l'accusation. Et nous sommes en quelque sorte les collaborateurs à leurs yeux. Ils se présentent comme les résistants. On peut invoquer ici la figure de Jeanne d'Arc ou de la résistance pour dire que nous sommes les résistants à l'invasion islamiste qui menace nos valeurs libérales et démocratiques. Ça a commencé avec Oriana Fallaci en Italie, qui venait d'ailleurs de la gauche italienne, ancienne résistante et qui est décédée maintenant. Pim Fortuyn aux Pays-Bas est un modèle pur de cela, ancien sociologue, enfin ancien marxiste, sociologue, mort, assassiné depuis, mais et qui, sur le modèle de la défense des libertés de la démocratie hollandaise et de sa diversité, de sa tolérance, face à ce que représente la menace islamiste, homophobe, etc., sont ces catégories dans lesquelles il est entré, lui, il se présentait en défenseur du modèle libéral et démocratique. Donc, ce retournement, il a vraiment eu lieu. C'est d'ailleurs ce qui explique, c'est au moins une stratégie efficace, ce qui explique en partie leur succès électoraux. Moi, j'appelle ça le populisme patrimonial parce qu'il répond d'une part à une vieille revendication, c'est la défense du niveau de vie, classe populaire, etc., et à une nouvelle revendication, à la défense du style de vie, où là nous arrivons éventuellement à la crise identitaire, mais aux classes moyennes, etc.
Est-ce que ça pourrait constituer un socle idéologique commun à l'ensemble de ces,
moi, je le crois,
de ces formations?
En tout cas, quand vous avez ces deux réacteurs, vous expliquez 35% par exemple pour le FPO à l'élection présidentielle autrichienne. Quand vous n'en avez qu'un, la défense du niveau de vie, même en entrant à gauche dans des catégories, dans des formes très populistes d'action, vous arrivez à 10, 12, 15%, mais vous n'arrivez pas à ces puissants mouvement-là qui se retrouve aujourd'hui à l'interface de ces deux phénomènes de revendication. Et les grands partis de gouvernement, à gauche comme à droite, ont perdu depuis très longtemps, en tout cas depuis 1945, ou n'ont pas voulu ou n'ont pas su s'emparer de questions qui ont à voir avec le style de vie, que parfois en effet on qualifie d'identitaire, de peur d'être... Moi j'ai utilisé le discours... qui a été prononcé par le député britannique Enoch Powell en 1968, en avril 1968, où il dit un certain nombre de choses. Il est aussitôt écrabouillé sous une montagne d'insultes et d'oukases, y compris par son propre parti conservateur. C'est le silence, c'est le 21 avril 1968, c'est le silence. Et depuis, aucun parti de gouvernement n'a pris en charge cette dimension-là, à la fois, je dirais, matérielle, le niveau de vie, et immatériel, le style de vie.
Anaïs Vagilis, le niveau de vie, le style de vie, vous voyez, vous, d'autres éléments qui peuvent constituer justement ce dénominateur commun à ces droites radicales, peut-être le rejet, ou en tout cas, si ce n'est le rejet, une forte critique des institutions, en particulier des institutions européennes?
Oui, il y a une critique certaine des institutions européennes et de ce que ça incarne en fait, c'est-à-dire le sentiment d'un pouvoir désincarné, la perte de capacité d'influencer sa propre vie et les décisions prises par les politiques et l'extrême droite droite radicale sort parle d'une perte de souveraineté et traduit en fait dans son discours ce que les citoyens ressentent au quotidien. C'est-à-dire qu'on a des partis de droite et de gauche qui véhiculent des représentations, mais qui s'opposent et qui sont de plus en plus éloignés des représentations que les citoyens ont de leur vie au quotidien. Donc il y a l'Europe et il y a, je pense, aussi le rejet des élites de manière générale, qu'elles soient européennes ou nationales.
Cet éloignement d'ailleurs peut-être des représentations, Jean-Yves Camus, est-ce qu'il est aussi vécu dans le vote pour ces formations? C'est-à-dire que est-ce que quand on vote pour le FPE, par exemple en Autriche, puisque je reviens à cette actualité-là, on vote consciemment pour quoi? Pour un parti d'extrême droite, pour un parti de la droite radicale, pour un parti normal, pour un pays comme l'Autriche?
Ah, d'abord, l'éloignement par rapport aux représentations traditionnelles de la politique, il commence avec l'abstention. Il commence avec l'éloignement massif de toute une partie du corps électoral de différents pays européens par rapport au vote. C'est-à-dire que tout simplement, et on le remarque particulièrement dans la tranche des 18-25 ans, hein, des jeunes qui votent pour la première fois, souvent pour la première fois, il y a tout simplement, quand on les sonde, quand on les questionne, un immense désintérêt. Si vous leur posez la question, il y a des élections dans 8 jours, pour qui allez-vous voter? Cela ne les concerne tout simplement pas. Ils ont à peine en tête les dates du scrutin. Ensuite, si l'on revient à la question que vous posiez, en Autriche, ça dépend. Il y a des Länder autrichiens dans lesquels voter pour le FPE, c'est voter pour un parti qui, traditionnellement, est puissant et ancré, a un référentiel idéologique clair, a longtemps été incarné dans une personne qui a pu être ailleurs Geider. Je pense par exemple au cas de la Carinthie, qui est un bastion du FPE. Il y a des cas plus récents. Le cas de M. Hofer est très intéressant parce que il est élu du plus petit land autrichien, qui s'appelle le Burgenland, et qui n'a jamais été particulièrement, jusqu'à ces dernières années, un bastion du FPE, mais qui se trouve tout simplement être dans cette partie de l'Autriche qui est limitrophe avec la Hongrie et qui, par conséquent, a d'autres raisons que la crise des réfugiés pour s'émouvoir de sa proximité avec des pays par lesquels passent des flux migratoires. Parce que c'est aussi la question du dumping social, de tous les gens qui passent la frontière tous les jours pour travailler, de la crainte qu'on a d'un envahissement par le voisin d'à côté où le coût du travail est moins cher et qui viendrait piquer le travail de ce land, par ailleurs quand même plutôt rural. Faut pas oublier que l'Autriche est un pays qui est bordé par de nouveaux arrivants dans l'Union européenne, qui pratiquent une forme de concurrence sur le marché du travail, qui ont des coûts de productivité beaucoup plus faibles. C'est la Slovaquie, c'est évidemment la Hongrie, c'est la République tchèque, c'est au sud tous les pays non encore intégrés à l'Union européenne de l'ex-Yougoslavie et la Slovénie qui elle y est. Donc c'est aussi une situation géographique tout à fait normale, tout à fait exceptionnelle plutôt. Est-ce que ces gens ont conscience qu'ils votent pour un parti d'extrême droite? En Autriche, le FPE, c'est ce qu'on appelle le troisième camp. Il y a trois camps dans la politique autrichienne. Celui des sociodémocrates, celui des chrétiens démocrates et celui des Freiheitliche, qui ne veut pas dire exactement libéral. C'est le camp des nationalistes, chez qui Frei, donc libre, signifie aussi libre de toute allégeance avec les repères traditionnels de la société, y compris éventuellement une forme de libre-pensée, d'éloignement par rapport à la religion. Alors oui, c'est un vote qui effectivement s'exprime en toute connaissance de cause, même si on constate que le candidat à la présidentielle fait 35%, que la précédente fait 15%, et qu'entre les deux, il y a eu un saut quantitatif absolument énorme. Mais les Autrichiens savent pour qui ils votent. C'est pas uniquement un vote, c'est pas majoritairement un vote de protestation.
Et voter pour ce parti il y a quelques années, c'était, et a fortiori envoyer des ministres du FPE dans un gouvernement, c'était quelque chose qui était considéré comme absolument scandaleux et inacceptable au niveau européen. Petit rappel, nous sommes en février 2000, justement. Le FPE vient de rencontrer un certain succès aux législatives. Il y a des ministres et l'Union européenne Riposte.
Donner une chance à l'Autriche demande aujourd'hui son président au pays de l'Union européenne, mais Vienne était prévenu, l'arrivée de l'extrême droite au sein de son gouvernement allait l'isoler. Dès aujourd'hui d'ailleurs, ses 14 partenaires européens appliquent les sanctions annoncées. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne, la Suède et le Danemark suspendent d'ores et déjà tous les contacts bilatéraux avec le gouvernement de Vienne. Maintenant, faut-il aller plus loin pour isoler davantage l'Autriche? Là, en revanche, les Européens sont partagés. On en saura probablement plus vendredi prochain à Lisbonne, lors de la première réunion des ministres européens des Affaires sociales. Il sera intéressant de voir comment se comportent les collègues européens de la nouvelle ministre autrichienne Elisabeth Sickel, du parti de Jörg Haider.
On l'a extrait du journal de France Inter du 4 février 2000. Dominique Régnier, on a l'impression qu'aujourd'hui, si Hofer arrivait à la présidence de l'Autriche, il n'y aurait absolument pas une réaction de cette ampleur au niveau de l'Union européenne. Mais peut-être que c'est une impression trompeuse.
Non, je pense que l'Europe sera très embarrassée si ça se produit. Il y a une différence importante qu'on peut rappeler. En 2000, c'est aussi une stratégie de la droite chrétienne-démocrate qui veut étouffer le FPE en le faisant rentrer dans le système. Et après tout, c'est une option qui a toujours été considérée comme possible. Et ça a marché, en un sens, puisque le FPE s'est effondré électoralement de fait de sa participation au gouvernement. Haider, prudemment, était resté à l'extérieur. Mais ça n'a pas marché non plus, puisqu'Haider a fondé un autre parti qui, aussitôt, est devenu aussi puissant que le FPE, pour le concurrencer même davantage. Et donc, ce qu'on comprenait, c'est qu'au fond, on pouvait tuer un parti comme ça en le faisant rentrer dans le gouvernement, mais les personnes qui avaient voté pour lui pour exprimer une exaspération, une frustration, elles restaient là avec leur exaspération et frustration et elles les reportaient ailleurs. Ça, c'est une... Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous avons un président autrichien issu du FPE, c'est ce parti lui-même qui se fabrique là, une puissance, voyez. C'est pas une espèce de combinaison pour essayer de le contenir ou même de le faire disparaître. Donc c'est pas la même chose. Et s'opposer à ça, c'est quand même commencer à aller contre l'expression dans un cadre. Là, on est confronté à des difficultés considérables, je le résume, mais ou bien ces partis-là, c'est pour ça aussi que l'extrême droite, c'est compliqué, ou bien ces partis-là sont déclarés officiellement ennemis du système démocratique et on les interdit, ils n'ont aucune chance de gagner les élections, ou bien on les laisse participer au jeu et il faut les laisser gagner quand ils gagnent. Si l'Europe se met à dire, imaginez, hein, à cause de cela, on va rompre nos relations, etc., ou je ne sais quoi. On va dire c'est très bien, en Europe, on peut voter à condition de faire toujours le même choix. C'est un peu ce qui se passe pour les référendums à propos de l'Europe, dit-on. Quand ils sont non, on les recommence, etc. Ça ne ferait qu'alimenter, je pense, moi, cette espèce de procès fait à l'Europe. Là, ce sera bien embarrassant. Et je n'imagine pas les Européens avoir le même comportement qu'en 2000. Je n'imagine pas non plus offert dans un comportement jusqu'au boutiste, parce qu'il y aura des sujets très sérieux de discussion avec, en particulier, Jean-Yves Camus le disait à l'instant, la question des réfugiés sera compliquée. Mais il faudra sans doute négocier avec eux.
Vous disiez, soit on les interdit, soit on les laisse participer, il faut accepter qu'ils gagnent. Qu'est-ce qui se passe en général, Jean-Yves Camus, quand ils gagnent? Alors quand ils gagnent, pas forcément quand ils arrivent premiers, mais qu'ils participent à des coalitions ou qu'ils soutiennent des gouvernements, est-ce qu'on peut déterminer une règle qui ferait que systématiquement ils finissent par s'épuiser? Ou bien là aussi c'est plus compliqué que ça?
Alors, on commence quand même à avoir un nombre d'expériences de ce genre suffisant pour en dégager des grandes lignes. Le premier cas, c'est celui où le parti qui rentre dans une coalition change totalement de nature en cours de route et perd de sa capacité à mobiliser contre le système. C'est ce qui s'est passé avec Gianfranco Fini lorsqu'il a transformé le mouvement social italien en une alliance nationale qui était somme toute l'équivalent de l'autre côté des Alpes de ce qu'était à l'époque l'UMP française, hein, ou ce qu'était le Parti populaire espagnol. Gianfranco Fini s'était totalement coulé dans le moule démocratique et du coup il est tellement devenu comme les autres qu'aujourd'hui on n'en parle plus, ni de lui, qui était un homme fort estimable, ni de son parti. La deuxième possibilité, c'est effectivement celle de parti que la droite choisit par tactique, et par tactique bien vue d'ailleurs dans le cas du chancelier Schäuble en Autriche, oui, de faire rentrer au gouvernement, qui paye cash à l'élection suivante le fait de n'avoir pas tenu, notamment sur le plan économique, les promesses qu'ils avaient faites aux catégories les plus populaires des électeurs, Le chancelier autrichien avait donné le portefeuille des finances à un élu du FPE. Qu'est-ce qu'il a fait, notre élu FPE ? Il n'a pas du tout favorisé les ouvriers, les employés, la classe moyenne inférieure qui avait voté pour lui. Il a mené une politique de stricte orthodoxie ultralibérale. Le résultat, c'est qu'effectivement, de 29%, le FPE est tombé à 10%. Mais ça a été un one-shot, si je puis dire. C'est-à-dire que cet effondrement a été suivi par une lente reconstitution du capital électoral. Ça a effectivement pris du temps, mais aujourd'hui, ça n'a finalement rien changé. L'Union démocratique du centre suisse a été associée, après qu'elle ait changé de nature sous la houlette de Christophe Blocher, elle a été associée, elle est toujours associée au pouvoir. Ça ne l'a pas vu s'effondrer. Les partis populistes, xénophobes, scandinaves, qui ne sont pas issus de l'extrême droite historique, c'est très important à comprendre, ce ne sont pas les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants des fascistes danois ou norvégiens.
Les démocrates de Suède, c'est quand même l'extrême droite.
Les démocrates de Suède sont à l'origine un parti ancré dans l'extrême droite. Aujourd'hui, il y a un changement de logiciel qui en fait un cas limite. Mais en tout cas, le parti du progrès norvégien, le parti du peuple danois, les fameux vrais finnois qui aujourd'hui participent à la coalition, sont dans une situation difficile. Parce que quand on est effectivement au gouvernement, on ne peut pas délivrer la totalité de son programme et on risque d'être désavoué par une partie de ses électeurs, mais ce sont quand même des électorats qui se consolident.
Il y a quand même un lieu plutôt où aujourd'hui les droites radicales sont puissantes, en tout cas sont importantes, c'est le Parlement européen, suite aux dernières élections de 2014. Anaïs Voigilis, il y a aujourd'hui trois groupes de droite radicale, enfin 3 plus 1, c'est-à-dire 3 qui sont identifiés, l'Europe des Nations et des Libertés, qu'a réussi à créer Marine Le Pen en juin dernier, l'Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe, les conservateurs et réformistes européens, et puis un groupe des non-inscrits dans lequel on retrouve justement les représentants du parti Jobbik hongrois et d'Obdoré grec. Est-ce que cette diversité des groupes, c'est le signe, on va dire quoi, d'une force de ces droites radicales, ou bien est-ce qu'au contraire c'est le signe de leur faiblesse, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à s'entendre et à peser de manière plus unitaire sur la scène européenne?
Je crois que c'est un signe de leur divergence surtout, c'est-à-dire que et c'est ce qu'a rappelé Jean-Yves Camus à l'instant, en disant que certains partis n'avaient pas de racines, ne trouvaient pas leurs racines dans le fascisme, l'histoire fasciste ou nazie. Et c'est pour ça que vous avez l'UKIP en Grande-Bretagne ou d'autres partis de membres d'Europe et de la Liberté et de la Démocratie, du groupe Europe de la Liberté et de la Démocratie, qui refusent de s'allier avec le Front National parce que ils dénoncent son fond qu'ils jugent trop antisémite. Ils dénoncent l'histoire du parti. Donc, plutôt que de parler de force ou de faiblesse, moi je parlerai de divergence et de non-volonté à travailler ensemble. Parce que certains partis n'ont pas intérêt à se retrouver associés au Front National ou au SPE ou au PVV.
Ça veut dire que ce sont des partis qui ne peuvent pas avoir, selon vous, une action commune au Parlement européen? Ou en tout cas, si on observe par exemple la façon dont les eurodéputés votent, est-ce qu'il n'y a quand même pas une forme de cohérence, au moins dans leur vote?
Si, bien entendu, on peut retrouver des cohérences et des alliances stratégiques au moment des votes parce que les questions abordées vont reprendre des thèmes chers parce que ces partis partagent des thématiques, notamment sur les questions migratoires. Et donc, ils ont tout intérêt à voter dans un sens qui va avec leur programme et leurs idées. Mais c'est pas pour autant qu'on les verra un jour s'associer de manière définitive et officielle au sein du Parlement européen.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impact des droites radicales sur les décisions du Parlement européen depuis 2 ans, Dominique Regnier, ou bien c'est quelque chose, le fait que ce soit malgré tout des formations importantes mais minoritaires, ça atténue considérablement, on va dire, leur impact?
Ça, leur impact est limité en ce sens que le parti socialiste européen et le PPE, la droite européenne, tiennent le Parlement, même s'ils ont reculé par rapport aux élections de 2009, ils tiennent le Parlement, mais en perdant des positions. En revanche, les positions nouvelles occupées par ces formations populistes ou d'extrême droite, les positions nouvelles occupées grâce à leurs succès électoraux, dès lors qu'ils arrivent à constituer des groupes, comme chacun le sait et l'a sans doute attendu à plusieurs reprises, mais il faut le rappeler ici, accordent des moyens considérables et nouveaux à ces partis, hein, qui ont des, ce sont des sommes énormes, des millions d'euros en collaborateurs très nombreux en moyens, et c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est le système démocratique, hein, tel qu'il fonctionne avec des partis dont on reconnaît l'existence comme contribuant à l'expression démocratique de la pluralité des opinions. Ils reçoivent de l'argent, ils ont le droit d'embaucher des collaborateurs, d'éditer des publications nombreuses, d'avoir des missions. Enfin, c'est une machinerie qui commence à se mettre en place. Vous voyez, on est sorti quand même, moi c'est ce qui me frappe beaucoup, par rapport aux années 80 encore, où on avait des formations comme ça, par-ci, par-là, en Europe, mais très nationalisées et bricolant aux marges des systèmes. On est maintenant, à part des partis comme l'UDC suisse, qui a toujours été très intégré dans le système, en effet, on est maintenant passé à un système très incorporé, où on commence à avoir, sur le plan médiatique, c'est spectaculaire, ça a été maintes fois commenté. En France, il y a eu une époque où on se posait la question de savoir s'il fallait inviter Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, on se demande si il n'y a pas un excès de présence du Front National dans les médias, en particulier sur les chaînes d'information continue. C'est spectaculaire de voir cette espèce de retournement. Donc il y a un vrai processus d'incorporation, et l'espace européen, comme les institutions européennes, leur offre d'abord et avant tout des moyens supplémentaires considérables.
J'ai encore une question à vous poser, Dominique Régnier, puis vous aussi, Jean-Yves Camus, mais Dominique Régnier, davantage comme élu Les Républicains que comme politologue, même si vous êtes les deux à la fois. On a évoqué donc le FPE autrichien, partenaire important pour le Front National, avec cette histoire de la droite autrichienne qui avait, en intégrant certains ministres dans un gouvernement, réussi pour un temps en tout cas à faire baisser l'audience du FPE. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait être dupliqué à celui de la France?
C'est moi. J'ai une analyse matérialiste de cette hypothèse-là. De mon point de vue, on ne fait pas disparaître des millions d'électeurs frustrés, en colère, désabusés ou amers. On ne les fait pas disparaître par un montage politique. On peut atténuer la visibilité d'un malaise ou d'un problème de ce type, qui est l'extraordinaire poussée de ces formations très périlleuses pour nous, par ce genre d'association ou de montage. Mais fondamentalement, les problèmes demeurent, et donc fondamentalement, cela réapparaît sous une autre forme, sans doute même plus radicale. Je ne crois pas qu'on banalise ces formations-là en les intégrant. Je crois que tout simplement, on fait passer vers d'autres formations qui viendront ce mécontentement, cette colère, cette exaspération.
Jean-Yves Camus.
Écoutez, en tant que citoyen, j'ai effectivement des options politiques différentes, mais je n'oublie pas pour autant que les candidats des Républicains à l'élection présidentielle, quels qu'ils soient, si aujourd'hui ils concevaient un accord avec le Front National, se tireraient une balle dans le pied. Je pense d'abord que ça n'est pas dans leur conviction, aucun d'entre eux, et ça n'est pas dans leur intérêt, parce que tout simplement, ils savent que les électeurs du Front National attendent des choses qu'ils ne feront pas, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne veulent pas faire. Les électeurs du Front National ne veulent pas que le nombre des immigrants légaux arrivant en France baisse. Et ils veulent tout simplement qu'il n'y en ait plus. Voir que ceux qui sont là retournent dans leur, entre guillemets, pays d'origine. Quel est aujourd'hui le candidat de la droite républicaine qui va faire sien ce programme-là? De toute évidence, personne.
Merci Jean-Yves Camus, Dominique Régnier et Anaïs Voigelis d'avoir participé à cette discussion. Je renvoie à votre ouvrage, hein, Jean-Yves Camus, avec Nicolas Lebourg, Les droites extrêmes en Europe aux éditions du Seuil, Populisme, la pente fatale, chez Plomb, non, réédité en poche, voilà, chez Fayard, pluriel, 2013. Ah bah vous me l'avez amené. Merci beaucoup Dominique Régnier. Émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour, télécharger, commenter, suivre sur Twitter. Vous pouvez également nous écrire, tout ça c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Nicolas Delmas. Demain, harcèlement sexuel, la loi est-elle à la hauteur?